Tribune. Interview de la semaine.
Bonjour Maman Sambo Sidikou.
Bonjour Monsieur Topola.
Oui, à l'issue du quatrième sommet de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, vous avez remplacé à la tête du secrétariat exécutif de cette institution votre compatriote Nadi Mohamed. Quelles sont vos priorités?
La région du Sahel est, comme vous le savez, confrontée à des défis majeurs, notamment sécuritaires, qui mettent à mal sa stabilité et annihilent bien des efforts de développement. En prenant la direction du G5 Sahel, sous décision du chef d'État, comme vous l'avez souligné, nous inscrivons notre travail en droite ligne de leurs recommandations, issues de la conférence de Niamey. Priorité donc au rétablissement de la sécurité dans nos 5 pays membres, grâce notamment à l'opérationnalisation urgente de notre force conjointe composée de 5000 hommes.
Oui, justement, à quand le début de cette opérationnalisation de cette force mixte?
L'opérationnalisation de la force conjointe est en cours, elle va se faire graduellement, elle se fait graduellement. Elle est déjà à 80% achevée. Le quartier général, comme vous le savez, a été inauguré en septembre 2017 à Sévaré, au Mali. De plus, l'un des postes de commandement, ce que nous appelons le fuseau centre, dans la région des trois frontières Mali, Burkina, Niger, est désormais pleinement opérationnel. Il y a des bataillons qui sont déployés et ont réalisé plusieurs opérations déjà, à Obi en particulier. Et le travail d'opérationnalisation se poursuit afin que cette force soit la pierre angulaire de la sécurité des 5 pays. Je voudrais ajouter que c'est une force modulable selon les priorités d'intervention, plus adaptée aux défis sécuritaires du Sahel, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et plus généralement les conflits de type asymétrique qui nous sont imposés.
Le 23 février dernier à Bruxelles, les bailleurs ont promis 414 millions d'euros, soit plus de 300 millions initialement demandés. Est-ce que ces fonds sont déjà disponibles?
Bon, en réalité, l'objectif est d'inscrire notre travail dans la durée. Et il s'agira de rendre pérenne le financement. Des annonces ont été faites de l'ordre de 414 millions. Nous travaillons inlassablement à faire entrer ces fonds dans nos caisses, dans notre fonds fiduciaire. Et la discussion pour rendre le financement pérenne doit être poursuivie au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, ici, c'est d'imposition de paix qu'il s'agit, ce n'est pas de maintien de la paix. S'il n'y a pas de paix réellement, il faut l'imposer aux groupes terroristes et autres. Cela exige des moyens et une posture vraiment différente de ce qui se passe dans les missions classiques, par exemple, des Nations Unies. Et je voudrais vous dire ici que le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, est un partenaire de choix, de premier plan dans cette optique. Donc, il s'agit pour nous maintenant de ce que nous faisons, une offensive diplomatique très renforcée pour faire entrer ces fonds qui ont été annoncés, en espérant que nos partenaires comprendront l'urgence, et ils le comprennent, ils font partie de ce qui commerce avec nous, pour ainsi dire, au quotidien dans ce sens-là.
Les pays membres du G5 Sahel ont eux aussi promis contribuer à hauteur chacun de 10 millions d'euros. Est-ce qu'ils ont déjà honoré leurs promesses?
Malgré leurs difficultés financières énormes que vous connaissez, tous les 5 pays ont ou entamé leur versement ou totalement apporté leur contribution financière. Donc, de ce point de vue-là, les choses avancent bien.
Et la force conjointe donc, du G5 Sahel doit à terme être composée de 5000 hommes. Tous les pays membres sont-ils prêts à déployer leur contingent?
Cela est en train de se faire assez rapidement, à mon sens, avec l'appui logistique de certains de nos partenaires. Donc, toutes nos troupes devraient être opérationnelles à temps voulu. Les états-majors de nos 5 armées nationales y travaillent sans relâche. Et comme je vous ai dit tantôt, nous y sommes déjà à près de 80%.
Et pourquoi ne pas impliquer dans cette force du G5 Sahel des pays comme l'Algérie, le Maroc ou le Nigeria? Ça aurait peut-être pu régler, non, en partie, cette question de financement?
Écoutez, laissez-moi m'appesantir un peu sur cette question parce qu'elle m'a déjà été posée, y compris lorsque je suis allé briefer le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine le 23 février dernier. La force conjointe est mise en place pour répondre plus spécifiquement aux défis sécuritaires des 5 pays membres, que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Mais elle s'inscrit résolument dans une perspective plus globale de travail, en synergie avec les autres pays de la grande région du Sahel et même de ses environs. Nous mutualisons déjà les échanges d'informations au niveau de nos services de renseignement, beaucoup plus que vous ne le pensez, pour prévenir les attaques et surtout neutraliser les formateurs des groupes terroristes et leurs affiliés. En la matière, je veux dire que l'expérience de pays frères comme l'Algérie, bien sûr, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc, voire l'Égypte sera très précieuse. Je compte d'ailleurs, et je l'ai dit au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, me rendre prochainement dans certains de ces pays frères. Déjà ici sur place à Nouakchott, le siège de notre organisation, j'entretiens une relation très étroite avec les représentants des pays que je viens de citer. En bref, nous avons mis en place notre noyau du G5 Sahel, mais la lutte est commune, tant sur le front sécuritaire que sur le plan crucial du développement au bénéfice de nos populations. Donc, toute notre action se concrétisera dans cette perspective.
Le Cameroun, tout comme le Nigeria, hein, font face à la nébuleuse Boko Haram depuis près d'une dizaine d'années. Pourquoi ne pas les associer également dans la constitution de cette force mixte ?
Allons par étapes. Récemment, le Mali et le Burkina se sont rencontrés en vue de s'intégrer davantage sur le plan économique, socioculturel et sécuritaire au niveau des régions frontalières, incluant même la Côte d'Ivoire. Il y a deux jours, trois jours, à Niamey, le Niger, le Tchad, le Soudan et la Libye se sont également rencontrés. Ces initiatives vont et doivent se multiplier pour accélérer l'intégration sous-régionale et renforcer la synergie propice au développement de la région du Sahel et plus que aussi voir de plus près les questions sécuritaires. Donc encore une fois, au niveau du G5 Sahel, nous nous inscrivons pleinement dans cette dynamique.
Maman Sambou, si du coup beaucoup d'habitants des pays membres du G5 Sahel estiment que la solution militaire à elle seule ne pourra pas endiguer le terrorisme, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je suis parfaitement d'accord avec cela. Les chefs d'État l'ont dit. J'ai entendu l'un d'entre eux dire récemment le tout militaire ne réglera pas nos problèmes. C'est pour ça qu'en parallèle de l'effort sécuritaire, nous nous activons pour concrétiser la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel dans son volet socio-économique. Et la priorité là est d'impulser un développement intégré des cinq pays à travers notamment les projets fédérateurs et catalyseurs de développement.
Et quels sont ces projets fédérateurs, Maman Sambou Sidikou ?
Il y a deux projets phares, par exemple, qui illustrent cette volonté. Il s'agit de la création d'une compagnie aérienne régionale Air Sahel pour améliorer les dessertes entre nos pays et la construction d'une ligne de fer reliant les cinq capitales des pays. Nous y travaillons avec l'accompagnement de la BADEA. Mais je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que le G5 Sahel est une jeune organisation. Nous nous employons à optimiser les performances de son secrétariat permanent pour le hisser au niveau des enjeux et des ambitions de l'heure. Cela dit, vous en parliez tantôt, le nerf de la guerre, c'est d'abord la donne financière. C'est pour ça que nous multiplions les contacts avec nos partenaires traditionnels et autres. Tous les autres amis du Sahel désireux de contribuer à transformer positivement cette région d'Afrique qui a bien des égards et stratégique pour la sécurité internationale. Je vous dis en passant que demain je vais à Moscou, ensuite je serai à Washington, 3-4 jours après, puis à Bruxelles. Nous ne ménagerons aucun effort pour cela. Et là, pour en revenir plus directement aux populations dont vous avez parlé, il est évident qu'il y a ce que j'ai appelé il y a quelques semaines à Niamey, les non-négociables. Les non-négociables, ce sont, par exemple, l'hydraulique villageoise. C'est l'eau pour les populations, c'est la santé pour les populations, c'est l'éducation de leurs enfants. Le jour viendra où nous devons tous être redevables de cela. Qu'est-ce que nous faisons effectivement pour nos populations, et en particulier dans les zones les plus fragiles, pour les populations les plus vulnérables, sur les frontières en particulier. Mais il faudra faire tout cela avec ces populations. Et donc il y a aussi tout un travail de communication et de communication de proximité à faire, aussi bien pour nous, G5 secrétariat, mais aussi pour notre force qui est au contact des populations dans la lutte quotidienne contre les terroristes.
Donc vous êtes vraiment optimiste hein, quant à l'opérationnalisation de cette force du G5 Sahel ?
Optimiste parce que je vois ce qui se passe, je vois les efforts consentis et je ne peux pas en parler directement à la radio pour des raisons évidentes, mais nous sommes sur la bonne voie.
Et c'est sans oublier, hein, Maman Sambou, aussi du coup que les attaques djihadistes se multiplient au Niger ou au Mali, hein, l'urgence est donc signalée.
Oui, bien entendu. Mais il ne faut pas se faire l'illusion. Une guerre nous est imposée, elle se fera sur la durée. Il faut simplement avoir les outils, les instruments et la détermination pour faire face à cela. Et encore une fois, mutualiser nos efforts, nous rendre compte que c'est une guerre dans laquelle nous devons être absolument solidaires et garder en tête la nécessité de mutualiser, de ne pas hésiter à dépasser les frontières parfois psychologiques, pour partager les informations qu'il faut pour faire face à cela. Je l'ai dit à Ouagadougou l'autre jour quand je suis allé après les attentats du 2 mars, il y a une internationale du terrorisme. Il faut qu'en face de cette internationale, il y ait une détermination sans faille et solidaire.
Et est-ce que vous pensez que la collaboration ou bien la communication entre les pays membres du G5 Sahel est assez consistante ?
Il y a certainement une amélioration à ce niveau-là, en particulier au niveau du renseignement. Mais on a pris la bonne direction. Je pense que les instructions des chefs d'État sont claires. Les services concernés, certainement, suivront ces instructions-là.
Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des populations de la bande sahélo-saharienne?
Je voudrais simplement leur dire de se rassurer. Tous les pays de la région et ses environs s'impliquent afin de mutualiser les efforts pour la sécurité et le développement dans notre zone. Je pense aussi qu'il ne faut pas qu'ils se découragent concernant ce que nous leur devons. C'est pour ça que nous avons mis en place une stratégie pour le développement et la sécurité, et en particulier un instrument opérationnel que nous avons mis en place, qui est un programme d'investissement prioritaire. Et il s'agit pour nous, et nous leur devons encore une fois, nous devons passer plus rapidement des idées aux actions, et particulièrement en direction de la jeunesse qui m'écoute, la jeunesse du Sahel, qui constitue notre cible prioritaire suivie par les femmes. Ce sont les populations les plus vulnérables, et en particulier sur les frontières. Je voudrais aussi leur dire qu'en leur nom, je remercie tous nos partenaires déjà impliqués dans notre plan d'action. Ils sont nombreux. Je voudrais citer ici l'Union européenne, Allemagne et France en tête, l'Arabie saoudite qui nous accompagne de façon consistante, les Émirats arabes unis aussi, la Turquie, les États-Unis et un fait notable, le Rwanda, dont le président a fait un geste magnifique en direction du G5 Sahel, contribution financière, et aussi qui se mobilise ou qui mobilise l'Afrique derrière lui.
Une contribution à hauteur de combien de millions, s'il vous plaît?
$1 million au titre Rwanda seulement. Mais le plus important aussi, c'est qu'il mobilise le reste de l'Afrique pour accompagner le G5 Sahel. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les autres amis du Sahel à nous rejoindre dans cette œuvre de transformation positive d'une région en difficulté et dont le potentiel à exploiter est plus que prometteur. Et surtout, qui est en première ligne de la lutte contre le terrorisme international.
Et qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires allemands?
Écoutez, qu'ils continuent ce qu'ils font, qu'ils donnent l'exemple en nous soutenant dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans le domaine du développement. Nous reviendrons vers eux. Nous espérons les voir avec les autres en première ligne à la grande table ronde qui sera organisée pour la dimension développement du G5 Sahel. Et nous savons pouvoir compter sur eux.
Mamane Sambo Sidikou, le deuxième et dernier mandat du président Issoufou Mahamadou expire en 2021. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous serez candidat à cette élection présidentielle de 2021?
Chacun est dans son rôle. Et moi, en tant que Nigérien, je souhaitais réellement que une génération plus jeune prenne la relève. Ouais. Le président Issoufou, son dernier mandat finit en 2021. Il aura fait le travail qu'il faut pour mettre les choses en place pour qu'une démocratie réelle s'installe et que la transition ou un passage de témoin soit le plus démocratique possible. Je pense qu'il est temps que les jeunes réellement soient au-devant des affaires de nos pays. Non, mais je ne suis pas partant. Je ne suis pas preneur.
Bien, Mamane Sambo Sidikou, merci.
Merci infiniment. Merci beaucoup.